Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 30 ans et je tricote. Je tiens la boutique Le Fil Café à Bayonne, dans le Pays Basque. C'est à la fois une mercerie spécialisée tricot et un salon de thé. Je vis à Bayonne et je suis originaire des Landes, d'où ce petit accent qui m'échappe parfois. Dans ce podcast, je parle de tricot, de crochet, de laine et de tout ce qui s'y rapporte, de près ou de loin. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de tricot et de minimalisme. Alors, j'ai déjà évoqué le minimalisme dans les épisodes précédents, mais cette fois, j'avais envie d'y consacrer un épisode entier. Et comme le sujet est quand même assez vaste et assez général, je parlerai de tricot et de couture aussi, une fois n'est pas coutume, et de vêtements aussi au sens général. Je fais le pari que ça peut vous intéresser aussi, puisque j'imagine que si on tricote tous et toutes, c'est pas juste pour la beauté du geste, mais c'est aussi parce qu'on aime se faire de beaux vêtements. Donc dans cet épisode, je vais parler de mon histoire avec le minimalisme, comment j'y suis venue, et aussi comment faire quand on partage la vie d'une personne qui n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Je vais parler évidemment de minimalisme en couture et en tricot, puisque c'est quand même le sujet qui nous intéresse ici. Et je vais aussi évoquer un petit peu les projets que j'ai pour mettre encore plus le minimalisme au cœur de ma vie et au cœur de ma pratique du tricot. Mon histoire avec le minimalisme, elle est assez récente, je pense. C'est venu avec le zéro déchet. Alors c'est vrai qu'avant cette conversion, on va dire, qui date d'il y a 2 ans à peu près, j'avais déjà depuis longtemps des pratiques d'achat plutôt minimalistes ou du moins un petit peu raisonnées. Donc j'ai jamais été une collectionneuse, voilà, j'ai jamais été une acheteuse compulsive de choses, ça c'est sûr. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas quelle a été mon influence, parce qu'aussi loin que je me souvienne, oui, c'est vrai que j'ai pas le souvenir d'une maison encombrée. Je me rappelle que ma mère, elle n'aimait pas du tout tous les petits bibelots, les objets de déco, on n'avait pas trop ça à la maison. Et puis, chez mes grands-parents maternels, où j'ai passé la plupart de mes vacances quand j'étais petite, c'est vrai que les armoires sont pleines de livres. Mais c'est une grande maison, donc j'ai pas eu le sentiment de crouler sous les objets. Et puis mes grands-parents paternels, eux, ils habitaient dans un tout petit appartement, donc il n'y avait pas tellement la place pour ça. Donc voilà. Après, quand moi j'ai commencé à habiter seule, quand j'étais plus grande, je me suis rendu compte que le désordre et l'encombrement, ça me provoquait un espèce de sentiment d'oppression. Du coup, j'aimais bien faire du tri, alors surtout dans mes vêtements, parce que, en fait, ça me donnait toujours l'impression de faire de la place pour autre chose, pour quelque chose de nouveau, de mieux, voilà. Je me sentais un peu respirer, quoi. Et en plus, j'ai souvent le sentiment que plus on s'entoure d'objets et de gens, plus la vie est compliquée et difficile à gérer, à organiser. Alors bien sûr, c'est un sentiment totalement personnel, vous êtes libre de penser différemment, bien entendu. Et donc ensuite, je suis passée au zéro déchet. Alors comment et pourquoi le zéro déchet amène vers le minimalisme ? Ben parce que du coup, on achète différemment. Nous, on a commencé avec l'alimentaire, c'était notre premier chantier. Donc, tout simplement, on a commencé à se fournir ailleurs que dans les circuits traditionnels du supermarché, parce que notre but, c'était déjà au départ d'acheter sans emballage, donc d'acheter en vrac, voilà. Mais dans les épiceries vrac qu'on a autour de chez nous, c'est aussi souvent des produits locaux, des produits bio, donc c'est autre chose. C'est pas juste, il n'y a pas d'emballage, c'est qu'on achète autre chose. Et notamment donc, au niveau des produits locaux, c'est aussi une manière de garder l'argent sur le territoire, de financer le petit paysan du coin plutôt que la grosse multinationale. Et ça donne du sens aux achats, quoi. On achète bio, on sait ce qu'on achète, quoi. C'est aussi souvent un petit peu plus cher que ce qu'on peut trouver dans les rayonnages de nos supermarchés. Mais moi, ça ne me dérange pas déjà parce que j'achète moins aussi. Donc finalement, au niveau budget, ça n'a pas tellement bougé. Et puis c'est aussi la garantie que chacun soit justement payé. Donc toutes les personnes sur la chaîne touchent un prix juste. Et souvent, c'est aussi des produits de bien meilleure qualité et qui sont plus durables. Donc on repense un petit peu de manière générale notre façon de consommer. Et j'ai commencé à regarder ce que j'avais chez moi. Et chez moi, j'avais des objets qui étaient plutôt peu durables. Donc que ce soit de la déco ou des vêtements qui se démodent très vite. mais aussi de l'électroménager qui avec l'obsolescence programmée. Et aussi, bien sûr, des tissus et des laines que j'avais achetés de manière pas tout à fait raisonnable. Alors j'ai mis en place un tri régulier, c'est quelque chose que je fais voilà, à peu près tous les trimestres. En général, quand je me rends compte qu'il y a un vêtement qui est tout en bas de la pile que je mets jamais, je prévois un carton que je laisse dans mon placard c'est des vêtements ou des objets à donner. Et donc régulièrement, quand le carton est plein, bah, je l'amène soit aux bornes qui récupèrent les vêtements, soit à la déchetterie où il y a un dépôt pour Emmaüs. Alors évidemment, c'est des objets qui sont en bon état, hein, je donne rien de cassé ou d'abîmé. Mais du coup, ça permet, voilà, j'ai une place vraiment réservée à ce carton ou à cette boîte dans laquelle je mets des choses que je veux donner. Et régulièrement, je vais la vider. Donc c'est quelque chose qui est devenu régulier. Et du coup, maintenant, je vais même encore plus loin. C'est qu'avant chaque achat, je réfléchis vraiment à ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que c'est vraiment de la qualité, est-ce que vraiment c'est quelque chose que je vais garder longtemps, et est-ce que vraiment j'en ai envie, est-ce que vraiment ça va me faire plaisir de manière durable, ou est-ce que c'est juste un coup de cœur influencé par une pub ou par quelque chose qui va s'en aller très vite, quoi. Et c'est vrai que je trouve plus grand-chose en matière de vêtements d'ailleurs, ou même d'accessoires. Parce que dans le commerce, je veux dire, parce que souvent c'est des matières synthétiques que je voudrais éviter. Et puis aussi, ben, c'est des finitions qui ne sont pas très soignées. Je ne m'en rendais pas forcément compte avant, mais c'est vrai que souvent, quand vous achetez une petite veste ou une chemise, souvent les boutons ne tiennent pas. Ça, c'est un truc qui m'agace beaucoup. Les t-shirts aussi, mon copain achète souvent des t-shirts avec des impressions rigolotes et tout. Et souvent, les coutures lâchent très vite. Les coutures des ourlets, des t-shirts, lâchent très vite. Et alors, avant, je privilégiais ce qui était moins cher, parce que je me disais que comme ça, je faisais des économies. Et en plus, je me disais, de toute façon, mes goûts changent d'une année à l'autre, donc je peux acheter la paire de chaussures synthétiques à 10 balles, et puis l'année prochaine, de toute façon, elle sera abîmée, j'en rachèterai une autre, etc. Donc ça, c'est pas du tout soutenable hein, comme modèle, donc je cherche maintenant le durable, et puis j'évite absolument les matières synthétiques. Alors si ça vous intéresse de vous lancer dans cette démarche un peu minimaliste, il y a un livre, évidemment je ne me souviens plus du titre, mais il est très bien, qui détaille un petit peu pièce par pièce ce qu'on peut mettre en place pour dégager un petit peu de la place, et puis apprendre à jeter ou à donner ce qui ne nous sert pas. Mais il y a un autre livre aussi dont je peux vous parler plus amplement, c'est le livre de Marie Kondo qui s'appelle La magie du rangement, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. Alors elle parle de rangement, le titre c'est le rangement, mais en fait sa solution à elle, c'est tout simplement de posséder moins d'objets. De cette manière, c'est plus facile de leur faire de la place, et on passe moins de temps à ranger, puisque chaque objet, justement, a déjà sa place. Et je trouve que ça peut se transposer assez facilement au tricot ou à la couture, parce que parfois j'ai le sentiment d'avoir trop de trucs à coudre, parce que j'ai beaucoup de tissus et de patrons en stock en fait. Alors concernant la déco, c'était aussi quelque chose, un point sur lequel je voulais vraiment réfléchir, et j'ai vraiment retenu que, en fait, un objet qu'on aime bien, il est carrément mieux mis en valeur tout seul sur une étagère, qu'au milieu de 5 ou 6 objets similaires sur la même étagère. Et c'est vrai que ça gâche vachement le plaisir, je trouve. Alors, c'est vraiment un sujet de discorde avec mon compagnon. Alors d'ailleurs, justement, comment faire si la personne qui partage votre vie n'est pas sur la même longueur d'onde que vous en termes de minimalisme? Alors, sans grande surprise, c'est pas facile. Le zéro déchet, clairement, j'ai dû le convaincre. Mais maintenant, il est vraiment dedans avec moi, on se motive l'un l'autre, on s'encourage. Mais lui, c'est vraiment un collectionneur. Il collectionne les figurines, les petits jouets, les souvenirs de voyage. Tout ça, ça prend évidemment de la place. Il faut des étagères, il faut des vitrines. Il a je sais pas combien de t-shirts justement avec des images un peu marrantes. Bon, après, c'est pas le pire au niveau t-shirt, ça va, il a quand même fait pas mal de tri ces derniers temps. Par contre, les chaussures, là, j'ai même pas compté combien de paires il a, mais je pense qu'il y en a au moins une vingtaine. Et il aime la nouveauté. Alors, quand je dis les chaussures, c'est les baskets, quoi. En plus, c'est vraiment des types de chaussures bien précis. Les casquettes aussi, les casquettes un peu... sais pas comment. Bon, en plus, je vais pas parler de quel style c'est parce que j'y connais rien. Et lui, il aime tout ce qui est nouveau, tout ce qui est un peu gadget, les trucs high-tech, les jeux vidéo. Alors pour moi, les jeux vidéo, c'est vraiment le domaine d'obsolescence programmée par excellence, quoi. C'est-à-dire que les jeux qui marchent que sur la nouvelle console et pas sur l'ancienne, donc vous êtes obligé de racheter une nouvelle console, ça, c'est ballot. Donc ça vraiment, moi, c'est un truc, ça me dépasse un peu. Mais bon, c'est son truc à lui, voilà, je le respecte. C'est vrai que de manière générale, il a du mal à se séparer de. Alors, déjà de ce qui représente un souvenir, donc tout ce qui est souvenir de voyage, etc. Mais c'est aussi lié à, par exemple, quelque chose qui lui a été offert. Donc, même s'il s'en sert pas, et même si l'objet en lui-même ne lui plaît pas, s'il donne cet objet, s'il le jette, il a l'impression qu'il va effacer le souvenir ou qu'il va trahir la personne qui lui a offert. Et ça, pour ça, je peux comprendre. Ça, moi, ça m'est arrivé aussi de ne pas réussir à jeter, par exemple, une paire de chaussures que ma sœur m'a ramenée de New York il y a 13 ans. Et je les ai encore. Et j'essaye de me persuader que je vais les mettre et tout, mais non, je sais très bien que non. J'ai mis aussi beaucoup de temps à donner une paire de bottes que ma mère m'avait offert dans une période un peu difficile où je bataillais. Enfin, j'étais très perdue au niveau de mon orientation scolaire. J'ai vécu une réorientation en fin de BTS qui a été un peu compliqué, que j'ai vécu moi comme un échec personnel, c'était un peu dur. Et un jour, à cette période-là, ma mère m'a offert une paire de bottes, qui était super d'ailleurs. Elle m'a dit, bah tiens, c'est des chaussures pour marcher dans la bonne direction. Et en fait, le fait qu'elle m'ait dit ça, j'ai mis des années à les donner alors que je ne les mettais plus, elles prenaient l'eau, enfin c'était la cata, et j'ai jamais voulu les donner quoi. Et bon, finalement j'ai réussi. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que je pense toujours à ce souvenir avec beaucoup d'émotion. Et je n'ai plus les bottes. Hein, donc, comme quoi, on peut donner les objets et ça ne jette pas les souvenirs qui vont avec. Alors, la solution, c'est quoi avec mon compagnon? C'est faire des compromis. Voilà, la solution, elle est assez simple, en fait. Mais c'est pas toujours évident. Du coup, les compromis, ça va être de lui laisser de la place. Il faut qu'il puisse mettre ses objets parce que c'est ce qui lui fait plaisir, c'est ce qui le rend heureux quand il rentre chez lui le soir, c'est ce qui fait que cet appartement c'est le sien aussi. Mais il faut qu'il comprenne de son côté que j'ai besoin de me garder des espaces vides pour respirer quoi. Donc tout ça, ça se négocie. Alors dans l'appart où on habite encore, on va bientôt déménager, mais du coup il avait son bureau, donc il avait une pièce pour lui tout seul qu'il avait décorée complètement à ses goûts. Donc moi, personnellement, c'est une pièce que je déteste, que je ne vais jamais, qui ne me fait pas plaisir, mais c'est à lui et c'est son truc à lui. Moi, dans le salon, j'ai un coin dédié à la couture, j'ai deux bureaux avec une étagère, avec tous mes livres de couture, mes machines, j'ai mis mes petits cadres et tout, donc c'est mon espace et le bureau, c'est son espace. Alors c'est vrai qu'il a aussi un meuble entier dédié à ses chaussures, donc vous savez les meubles Ikea où il y a 8 casiers, là, les Kallax, voilà. Donc là, il est rempli de chaussures, de baskets. Mais on a un accord aussi de, il est plein hein, le meuble, donc de toute façon, voilà. Et s'il en achète une nouvelle, il y en a une autre qui donne. Parce que moi, je refuse qu'on achète un nouveau meuble pour ranger les chaussures. Quoi. Voilà, c'est ma limite. Dans notre nouveau chez nous, là, où on va bientôt emménager, je lui ai dit qu'on mettrait ses cadres à lui au mur, dans le salon, parce que je veux pas qu'on mette trop de cadres, je trouve que c'est étouffant, et en plus, on en profite moins bien. Donc je lui ai dit, ok, on va mettre tes cadres à toi. Mais il y aura une limite de nombre qui sera la mienne, quoi. Voilà. Bon, dans la chambre aussi, on négocie chacun sa place sur la commode. Et puis surtout, pour les achats de matériel, on discute beaucoup. Donc tout ce qui est électroménager, voilà, on discute, on argumente. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'on n'en a pas besoin. Lui, il a toujours tendance à dire que ça va être super. Et que ça va nous faciliter la vie. Il n'a pas complètement tort. Évidemment, je n'ai pas complètement tort non plus. Mais du coup, à force de discuter beaucoup, d'argumenter, il a quand même fini par accepter d'acheter d'occasion. Et alors ça, pour moi, c'était une super victoire. Parce que vraiment, au début, c'était très compliqué de négocier ça avec lui. Il voulait acheter neuf pour avoir la garantie, etc. Et moi, je voulais acheter d'occasion en me disant qu'à chaque fois qu'on achète un objet neuf, il y a énormément de déchets cachés dont on est un petit peu responsable aussi. Donc du coup, le fait qu'il accepte d'acheter d'occasion, c'était une vraie victoire, voilà. Un vrai compromis. Alors, une chose est sûre, c'est que je n'ai jamais jeté des objets à lui dans son dos. Je pense qu'il faut vraiment pas le faire. C'est vrai que des fois, les négociations sont âpres et rudes. Je mets parfois plusieurs mois à le convaincre. Mais si je fais ça, si je jette dans son dos, je perds sa confiance. Donc c'est totalement contre-productif parce que du coup, j'arriverai plus à négocier sur rien. Donc faut, voilà, si vous aviez l'intention de le faire, surtout, ne le faites pas. Alors, je parle beaucoup de minimalisme dans mon intérieur, etc. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut aborder la question sous l'angle de la couture et du tricot ? Alors déjà, il y a un point que je voulais aborder, c'est qu'il y a énormément de patrons et de modèles. Ensuite, je pense que je vais vous parler un petit peu vite fait de mon stock de tissus et de laine. Et en dernier, bah, des projets que j'ai pour améliorer cette partie. Alors, sur les patrons et les modèles, clairement, je trouve que c'est hyper difficile aujourd'hui de s'y retrouver dans l'offre pléthorique de patrons indépendants. Alors, indépendant, en fait, c'est le terme qui est utilisé, indépendant, je ne sais pas, indépendant par rapport à quoi, je ne sais pas trop. Je reprends ce terme parce qu'il est très utilisé et que comme ça, vous voyez de quoi je parle. Mais ouais, on pourrait peut-être opposer patron indépendant à patron Burda ou patron d'une grande marque comme Vogue ou McCall's Simplicity, etc. Je le vois un peu comme ça. Moi, je compare ça avec les livres au moment de la rentrée littéraire. Parce que j'ai bossé en bibliothèque. Du coup, je me rappelle que y a une profusion de sorties au moment de la rentrée littéraire. Il y a énormément de nouveaux auteurs et de nouvelles autrices, mais on a toujours le même temps disponible pour lire, en fait, au final. Donc c'est plus difficile de choisir. Voilà. Et ben c'est exactement pareil en couture et en tricot. J'arrive plus à m'y retrouver, je confonds les marques de patrons entre elles, je confonds c'est moi le patron avec dessine-moi un patron, je m'y perds complètement. Il y a encore 3 ou 4 ans, je suivais des marques, donc sur Instagram ou sur leur blog aussi, comme Direndo, Colette Patterns, Megan Nielsen, qui, à l'époque, je trouvais que elles proposaient des patrons qui me plaisaient, elles avaient des petits détails qui faisaient la différence, mais aujourd'hui, il y a 3 fois plus de marques donc indépendantes qui proposent toutes de jolis patrons, mais moi, j'arrive plus du tout à suivre. Alors, en tricot, c'est un peu la même chose, mais il y a Ravelry. Alors, pour faire du tri parmi les patrons en recherche avancée, Ravelry, c'est très efficace. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en favori mes designers préférés. Donc, il y en a quelques-uns que j'aime vraiment bien, des françaises, des anglaises, etc. Et du coup, on peut restreindre la recherche au modèle de ces derniers. Donc, ça, c'est pratique. Du coup, Ravelry va chercher que parmi les modèles de mes designers favoris. Donc, j'ai un peu moins le sentiment d'être perdue. Mais il y a aussi énormément de nouveautés et un peu de quoi se sentir noyée, quoi. Mais finalement, ce que ça produit en moi, c'est que je sens émerger l'envie de m'affranchir de tout ça. Donc j'ai de plus en plus envie de bidouiller mes propres modèles, ce qui est plus facile pour moi en tricot qu'en couture. En couture, je me suis déjà essayée à la coupe à plat. J'aimerais vraiment prendre du temps pour m'y remettre, mais j'ai besoin d'une semaine au calme pour vraiment faire mon patron de base, et puis le modifier, parce qu'il n'y a pas que le dessiner le patron, il y a aussi après faire tous les ajustements, et c'est pas toujours évident. Il y a une discussion à ce sujet, donc le sujet des patrons, de couture, est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'il y en a suffisamment, sur Thread and Needle, sur les forums. Je vous mettrai le lien dans les notes parce qu'elle est vraiment intéressante cette conversation et il y a pas mal de choses, de liens qui sont donnés vers des entreprises qui font des kits ou des logiciels de modélisme, etc. Il y a beaucoup d'informations dans ce sujet et du coup je vous mettrai le lien en notes. Sur mon stock de tissus et de laine, qu'est-ce que je peux dire ? C'est vrai qu'au début, je jette la pierre à personne parce que moi aussi j'achetais des tissus pour le coup de cœur. Alors vraiment, j'allais à Mondial Tissu, je trouvais un joli tissu avec un motif super joli qui me plaisait, donc je l'achetais, voilà, j'en achetais 2 mètres en me disant bon, j'en aurai assez pour faire un truc. Pareil pour quand j'étais à Bordeaux, j'allais au marché, marché Saint-Pierre, mais non, marché Saint-Michel, voilà, le lundi et le samedi matin. Donc il y a plein de tissus à 1 € le mètre, j'allais de quoi me lâcher, j'ai acheté plein de tissus. Bon, ça clairement je ne le fais plus, voilà. Ensuite je me suis mise à acheter des tissus qui me faisaient envie, mais avec un projet derrière la tête, et pas juste une vague idée de tiens je pourrais me faire une robe. C'est vraiment, j'avais une idée de patron, je savais que voilà, j'allais faire ça... Mais je réalisais pas forcément que j'avais déjà trop de projets prévus et que j'avais pas le temps de tous les réaliser. Donc j'accumulais les tissus, j'accumulais les patrons sans jamais les faire, quoi. Alors aujourd'hui, décision un peu radicale, j'ai décidé d'acheter le tissu, la laine et les modèles au dernier moment. C'est quand je sais que je vais avoir eu un moment pour coudre et pour tricoter, j'achète vraiment au dernier moment, j'achète rien à l'avance. parce que sinon ça traîne trop, parce que souvent je me rends pas compte, par exemple là je suis en train de tricoter un pull, je vais peut-être mettre 3 mois à le faire, donc si j'achète au moment où je commence ce pull, si je commence à acheter de quoi faire le projet suivant, en 3 mois j'ai le temps de changer quand même d'avis, de goût, j'ai le temps de me rajouter d'autres projets sur ma liste, parce que j'ai vu d'autres choses passer qui m'ont plu, etc. Donc clairement c'est pas du tout la bonne solution d'acheter à l'avance, donc j'achète au dernier moment. J'achète plus, du coup, j'achète pas quand c'est en solde, par exemple, quand il y a des promos sur les laines et les modèles, j'achète pas en solde, j'achète vraiment quand j'ai besoin, quand c'est le moment, j'achète, mais sinon, non. Et quand j'ai des restes de laine, donc soit je mets les fins de pelote dans un petit bocal au magasin et les gens se servent dedans pour faire de la broderie, des pompons, des bracelets, enfin des petits trucs, ça peut aussi servir de rembourrage pour les peluches ou les amigurumis. Et alors s'il reste assez de métrage, ça m'est arrivé là récemment, j'en avais quand même pas mal, du coup j'ai pu tricoter un petit bonnet pour bébé, sachant que de toute façon dans mon entourage il y a toujours un bébé qui va naître, donc ça peut toujours servir et puis ça fait toujours plaisir et au moins c'est pas perdu quoi, ça dort pas dans un tiroir, donc voilà. Alors mon stock aujourd'hui, tout à l'heure je parlais de mon copain qui avait un meuble entier pour ses chaussures, moi j'ai le même meuble entier pour le tricot et la couture, donc chacun son truc. Donc c'est les meubles, voilà, les Kallax avec 8 casiers. Alors les casiers, ça correspond à un petit carton, quoi, enfin en termes de volume. Un peu comme c'est un peu plus gros que les cartons de ramettes à 4, vous voyez. Alors déjà, dans mon stock, il y a beaucoup de tissus que j'ai achetés, mais il y a aussi beaucoup de tissus qu'on m'a donnés. Et ça, clairement, j'aurais dû dire non, parce que j'en avais pas l'utilité. J'en aurais jamais l'utilité. D'ailleurs, il y en a que j'ai déjà redonné à d'autres personnes. Et c'est dur, des fois, d'apprendre à refuser aussi, parce que c'est un geste qui est plutôt gentil et bien intentionné, mais moi, je peux pas stocker comme ça à l'infini des tissus, quoi. Donc, voilà. Alors, dans mon meuble à 8 casiers, donc il y a 4 casiers qui sont occupés par les tissus. Il y a un casier qui est occupé par des sacs entiers de chute et des boutons. Il y a 2 casiers qui sont occupés par les laines et les accessoires de tricot, sans compter que j'en ai aussi au magasin, que la plupart de mes kits d'aiguilles circulaires notamment sont au magasin. Et alors il reste un casier pour tout ce qui est art plastique, dessin, et je mets aussi dedans tout ce qui me sert pour faire des emballages cadeaux. Je récupère des fois des jolies boîtes que je réutilise pour faire des cadeaux. J'ai des coupons de tissu aussi dont je me sers pour faire des emballages en tissu, enfin bon, voilà. Et alors mon projet pour tout ça, c'est de profiter de ce déménagement qui arrive, chouette, pour faire du tri. Parce que avoir tout ce stock, eh ben, ça m'amène vraiment rien de bien. Ça m'amène juste de la frustration parce que j'ai trop de projets en tête et que j'ai pas le temps de les faire. J'aurai jamais le temps de les faire. Je travaille du mardi au samedi, de 10h à 19h. Je passe 45 heures donc, au magasin, sans compter le temps de trajet. Donc, le week-end, c'est le dimanche et le lundi. Et dans mon week-end, j'ai besoin d'avoir du temps déjà pour m'occuper de ma maison. Et j'ai besoin d'avoir du temps aussi où je ne fais rien. Donc, j'ai besoin d'avoir du temps libre, vraiment libre. Et c'est bien aussi d'avoir à côté du temps libre productif, mais je peux pas me dire que mes 2 jours de week-end vont être consacrés à faire de la couture, faire le ménage, enfin remplir à fond le temps libre que j'ai le week-end par des choses. Ça, je ne veux pas. Donc, je ne peux pas coudre tous les week-ends. Voilà. Et du coup, ça m'amène voilà, un sentiment négatif, alors que ça devrait être positif, parce que le tricot et la couture, c'est 2 passions que j'adore et qui me font beaucoup de bien. Et donc, je voudrais vraiment... me concentrer sur le positif. Donc l'objectif c'est de garder un casier pour les tissus, un casier pour le tricot, et tricoter et coudre là dans l'année qui vient tout ce que j'ai en stock. Alors en laine ça va être vite fait parce que j'ai vraiment pas trop de stock, ou alors donner ce que j'utiliserai pas. Donc donner ou voilà, donner contre frais de port, enfin voilà, ce que j'utiliserai pas. Alors j'ai aussi un autre projet dont je vais sûrement vous reparler, vraiment vous reparler sur le blog de la boutique, c'est de reprendre le Wardrobe Architect. Donc c'était un projet qui avait été initié par la marque Colette Patterns en 2014 et dont l'objectif était de créer une garde-robe capsule en partant vraiment de zéro, donc d'une réflexion sur son propre style jusqu'à voilà, la planification de projets couture. Alors c'était la couture chez eux, mais moi j'avais fait en 2015 en planifiant aussi des projets tricot. Donc ça je vais vous en reparler parce que du coup je ne suis pas allée tout à fait au bout la dernière fois parce que je pense que j'avais mal justement évalué le temps que je pouvais consacrer au tricot et à la couture. Tendance à avoir un peu les yeux plus gros que le ventre. Du coup, je vais le refaire et en plus, de cette manière, je pourrais aussi y intégrer cette nouvelle réflexion autour de l'achat, du minimalisme. Après, la garde-robe capsule, en soi, c'est déjà quelque chose d'un peu minimaliste. Mais du coup, voilà, y intégrer la réflexion sur comment acheter des tissus éthiques, éco-responsables et la laine, pareil. Donc ça, je vais vous en reparler très prochainement. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des commentaires ou juste si vous avez envie de partager votre expérience sur le minimalisme ou non, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Comme vous savez, je suis toujours très contente de vous lire. Donc si vous aussi, vous avez un compagnon ou une compagne qui n'est pas très minimaliste et que vous bataillez un petit peu, n'hésitez pas à m'en parler. On pourra toujours échanger des pistes et des conseils. Et puis quant à moi, je vous retrouve très prochainement sur les réseaux sociaux, sur le blog et le mois prochain pour un nouveau podcast. À bientôt !